Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. Sur une plaine entre deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, non loin de l'endroit où était le Jardin d'Éden, s'est fondée une des premières, peut-être la première, grande ville de l'histoire humaine. À quelques 85 kilomètres de la ville moderne de Bagdad, en Irak, cette ville était la plus grande au monde à plusieurs reprises pendant son histoire. Certains historiens pensent que c'était la première ville à avoir atteint le nombre de 200 000 citoyens, habitants. Cette ville a une histoire intéressante et une signification importante dans la Bible. Elle revêt un symbolisme clé pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité et pour comprendre des événements prophétisés pour le temps de la fin. Des événements qui vont secouer la terre. Il s'agit, bien sûr, de la ville de Babylone. Babylone est à la fois littérale et figurative dans la Bible. Alors, je vous propose aujourd'hui de prendre quelques minutes pour étudier le sujet de Babylone dans la Bible. Elle est importante, cette histoire, pour le peuple juif, et également, elle a une grande importance pour, comme j'ai dit, les événements prophétisés qui vont toucher le peuple de Dieu au retour, juste avant le retour de Jésus-Christ. Commençons dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, nous allons commencer à lire au verset 1. Genèse chapitre 10, verset 1 pour commencer. Nous lisons, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Descendons au verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Mitzrayim, Put et Canaan. Les fils de Cush, nous avons cette explication, et puis verset 8, Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinar. De ce pays sortit aussi Assur, etc. Première mention de Babel, ville qui plus tard va prendre le nom de Babylone. Et celui qui a régné dessus, c'était un certain Nimrod. Il est utile pour nous de comprendre un peu l'arrière-histoire de Nimrod, ce que nous pouvons en savoir, pour comprendre comment Babylone a fini par avoir la réputation qu'elle avait et qu'elle a encore. Babel, en hébreu, ou Babylone, en grec, c'est la forme grecque, était l'une de ces grandes villes établies par Nimrod au début de l'histoire humaine. Maintenant, je vais vous citer un passage d'un ouvrage plutôt, qui s'appelle « Vue d'ensemble dans l'Ancien Testament » par J.E. Smith. Et voici ce qu'il a dit à propos de Nimrod. Le texte fournit peu d'informations concernant Nimrod. Il était un descendant de Cush, un Amite. Le récit biblique est d'accord donc avec l'ancienne histoire de la Mésopotamie, qui fournit la preuve que la région était gouvernée par un peuple non sémitique, non descendu de Sem. Nimrod a commencé à être, c'est-à-dire à chercher à être, un puissant. Et le mot est « gibor » dans le pays. Le mot « gibor » pourrait être traduit par « tyran ». Il était un tyran. Le nom même de Nimrod explique son mode de vie. C'était un tyran. Son nom signifie « révoltons-nous ». Il doit avoir été un souverain impitoyable qui était opposé à tout ordre existant. Il poursuit. Nimrod a été particulièrement remarqué comme un vaillant chasseur devant l'Éternel. Nous l'avons lu au verset 9. Une des responsabilités des rois dans ces temps anciens était de réduire la population d'animaux sauvages pour protéger les citoyens. Le texte peut se référer à cette fonction. Des documents cependant parlent aussi d'anciens rois qui chassaient des hommes d'une ville, les capturaient et les enlever en esclavage. Peut-être que Nimrod a chassé des hommes, et il l'a fait devant l'Éternel, devant Yahvé. Le mot « devant », l'ifné, peut être traduit par « dans l'opposition à ». Donc, la Septante, cette traduction de la Bible, l'avait rendu un vaillant chasseur contre le Seigneur. Nimrod était un bâtisseur d'empire, toujours la citation. Il a commencé son ascension au pouvoir au pays de Shinéar, dans la vallée de la rivière mésopotamienne inférieure. Il a progressivement étendu son influence sur, ou peut-être il avait construit, Babel, Érech, Akkad et Calné. Nimrod a finalement élargi son influence en Assyrie, où il a bâti Ninive, Rehoboth, Calac et la grande ville de Resen. Ça, vous lisez dans Genèse 10, versets 10 à 12. Tout cela, c'était la citation d'une vue d'ensemble de l'Ancien Testament par J.E. Smith. Donc, Nimrod s'est érigé en roi en opposition à Dieu. Son empire avait commencé à Babel pour s'étendre à Ninive. Et bien sûr, il s'agit de deux villes au centre d'empire qui ont lutté contre Israël et ont dominé le peuple de Dieu pendant des centaines d'années. Le peuple que Dieu avait choisi à être son peuple. C'était des ennemis au peuple de Dieu. Lisons maintenant dans Genèse chapitre 11, verset 1. Genèse chapitre 11, verset 1. Poursuivons l'histoire. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront, ils auraient protégé. » Projeté, pardon. « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'en s'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. » C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Là, nous avons l'explication de la tour de Babel. Autre fait qui a eu lieu dans cette ville. C'est à cet endroit que les hommes ont essayé de bâtir une tour dont le sommet devait toucher le ciel. Peut-être, du temps après le déluge, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient se mettre à l'abri d'une autre déluge envoyée par Dieu. C'était en opposition au projet de Dieu. Beaucoup de personnes, beaucoup d'experts qui ont étudié cela voient dans la construction de la tour un effort pour se protéger contre l'éventualité d'une autre déluge envoyée par Dieu. Au lieu de se soumettre à Dieu, ils n'ont pas appris la leçon du déluge. Ils croyaient pouvoir se mettre à l'abri des corrections de la part de Dieu. Maintenant, je prends une autre source, plus ancienne cette fois-ci. Flavius Joseph a écrit dans Les Antiquités des Juifs, livre 1, chapitre 5, à propos de cette même époque. Maintenant, Joseph, vous savez, il a raconté, ce n'est pas inspiré comme l'est la Bible, mais il a raconté les coutumes et la connaissance historique qu'avaient les Juifs. Qu'est-ce qu'ils pensaient de leur histoire? Voici ce qu'il a dit, livre 1, chapitre 5. « En effet, comme ils avaient une floraison nombreuse de jeunes gens, Dieu leur conseilla de nouveau de détacher une colonie. Mais eux, sans songer qu'ils tenaient leur bien de la bienveillance divine, et attribuant à leur force personnelle l'origine de toute leur abondance, n'obéissaient pas. À leur désobéissance, ils ajoutèrent même le soupçon que Dieu leur tendait un piège, en les poussant à émigrer, afin que, divisés, Dieu pût les maîtriser plus facilement. Celui qui les exalta ainsi jusqu'à outrager et mépriser Dieu fut Nemrod, petit-fils de Cham, fils de Noé, homme audacieux d'une grande vigueur physique. Il leur persuada d'attribuer la cause de leur bonheur non pas à Dieu, mais à leur seule valeur, et peu à peu à transformer l'état des choses en une tyrannie. il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de Dieu était de les faire remettre toujours davantage à sa propre puissance. Il promettait de les défendre contre une seconde punition de Dieu si Dieu voulait inonder la terre. Il construirait une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle, et il vengera même la mort de leur père. Ce sont les propos tenus par Nimrod selon Joseph. Le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nimrod, considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude. Ils se mirent à édifier la tour avec une ardeur infatigable, sans se ralentir dans le travail, et s'éleva plus vite qu'on eût supposé grâce à la multitude des bras. Mais était si formidablement massive que la hauteur en semblait amoindrie. On la construisait en briques cuites, reliées ensemble par du bitume pour les empêcher de s'écrouler. Voyant leur folle entreprise, Dieu ne crut pas devoir les exterminer complètement, puisque même la destruction des premiers hommes n'avait pu assagir leurs descendants, mais il suscita la discorde parmi eux en leur faisant parler des langues différentes, de sorte que grâce à cette variété d'idiomes, ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres. L'endroit où ils bâtirent la tour s'appelle maintenant Babylone, par suite de la confusion introduite dans un langage primitivement intelligible à tous, les Hébreux rendant confusion par le mot « Babel ». Ça, c'est le récit de Joseph, et donc il explique que Nimrod était vraiment un opposant, il voulait séparer les êtres humains, les hommes de sa tribu, les séparer de Dieu. Maintenant, comme j'ai dit, ce n'est pas inspiré par Dieu, son histoire, mais c'est intéressant de lire en parallèle avec ce que Dieu nous dit dans la Bible. Ainsi, à la vue de ce que ces hommes cherchaient à faire, Dieu a confondu leur langage, afin qu'ils ne puissent pas terminer ce projet de la tour. Babel signifie confusion. Et ce nom décrit parfaitement cette cité dont les habitants n'obéissaient pas à Dieu. Cette ville devint de plus en plus idolâtre, peut-être la plus idolâtre de toutes les villes de l'Ancien Monde, et de la capitale de l'Empire qui porte son nom. C'est Babylone, plus tard, qui a conquis et détruit la ville sainte de Jérusalem en trois vagues successives entre 605 et 589 avant notre ère. Babylone était l'ennemi et l'oppresseur du peuple de Juda. Plus de 100 ans avant la destruction de Jérusalem par Babylone, Dieu a fait prophétiser Ésaïe, son prophète, la chute de cette ville adversaire. Et ça, nous lisons dans Ésaïe chapitre 21. Regardons ensemble Ésaïe chapitre 21. Ésaïe 21, verset 9. Tout le chapitre 21 est une prophétie sur Babylone. Voici, il vient de la cavalerie, Ésaïe 21, verset 9, des cavaliers deux à deux, elle prit encore la parole et dit, « elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Elle est tombée, Babylone. » Quelques 1500 ans après sa fondation, Dieu, par la bouche de son prophète Ésaïe, a déclaré ce que nous venons de lire. « elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » Le royaume de Babylone allait durer encore 200 ans après la mort d'Ésaïe, jusqu'en 539 avant notre ère. Et le lieu de la cité allait continuer d'être habité jusqu'à l'époque de l'invasion islamique vers 650 de notre ère. La prophétie que nous lisons ici dans Ésaïe est double. Elle ne se reporte pas seulement à l'ancienne Babylone, ça a eu lieu, mais elle se réfère également à une autre Babylone qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, nous trouvons une toute autre Babylone, imagée cette fois-ci, mais qui représente également la rébellion contre l'Éternel. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous trouvons une Babylone bien différente de ce que nous trouvons dans la Genèse ou dans d'autres endroits, Daniel, etc. Apocalypse chapitre 17, regardons. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit sur un désert, dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Pour comprendre ce que cette Babylone représente, nous devons commencer par comprendre le langage symbolique du livre d'Apocalypse. À quoi correspondent une femme, une bête, sept têtes, 10 cornes, Babylone la Grande? Nous ne devons pas imaginer nos propres explications, la Bible s'interprète. Toutes sortes d'idées ont été avancées à travers des années pour ce que ça va représenter, mais nous devons chercher à permettre à la Bible d'interpréter la Bible, de s'interpréter elle-même. Alors une femme, selon la Bible, le Nouveau Testament, ça peut parler de quoi? Quel est le symbolisme? 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. C'est Paul qui dit, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul fait référence à l'Église de Dieu, les membres de l'Église, et il dit, « Je vous ai fiancé à Christ. » Dieu, donc Paul compare l'Église de Dieu à une femme chaste. Dans Apocalypse 19, pour revenir en Apocalypse, nous trouvons une autre référence à une femme. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse chapitre 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Les saints qui composent l'Église dans le Nouveau Testament, l'Église est comparée à une femme, l'épouse de l'agneau. Donc, quand la Bible parle symboliquement d'une femme, parfois on parle de femme littérale, bien sûr, mais quand il s'agit d'un symbolisme, une femme représente une Église ou un système religieux. La femme d'Apocalypse 17 était une Église, mais pas l'Église fondée par Jésus-Christ, pas une Église chaste et fidèle. Nous sommes toujours en Apocalypse, allons au chapitre 17, verset 6. Apocalypse 17, verset 6, parlons toujours de cette femme, Babylone la Grande. Je vis, verset 6, je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Cette femme, appelée Babylone la Grande, est une église apostate, responsable du martyre de beaucoup de membres de l'Église de Dieu à travers l'histoire. Donc, il y a deux femmes en Apocalypse. Il y a une femme chaste, l'épouse de l'agneau, et il y a une femme débauchée, une prostituée, qui vit en rébellion, qui s'oppose à l'Église de Dieu et essaie de la détruire. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 18, nous glanons un autre détail. Verset 18, « La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Cette femme, la Bible l'identifie. dans les siècles suivants, la seule église dont le siège était une ville ayant régné sur les rois de la terre n'est autre que l'église catholique romaine, dont le siège se trouve toujours à Rome. Le commentaire biblique d'Adam Clark dit ceci. Il a déjà été démontré que la femme assise sur la bête à sept têtes représente l'église latine, c'est-à-dire romaine. Cela nous est confirmé ici, car la femme est appelée une ville, ce qui est un emblème d'une église, le mot étant indubitablement utilisé en ce sens dans de nombreux passages de l'Écriture, de nombreux passages, de sorte qu'on ne peut pas se méprendre quant à sa signification. Donc, la femme, c'est l'Église catholique qui siège à Rome. Alors, qui sont les bêtes dont il est question? Dans chapitre 17, verset 1, chapitre 17, toujours Apocalypse, chapitre 17, verset 1, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Sept têtes et dix cornes. La Bible déclare que cette femme est assise sur une bête écarlate. Si nous revenons dans Apocalypse 13, nous allons commencer à mieux comprendre l'identité de cette bête. Apocalypse 13, verset 1, je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème, satanique d'origine. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc cette bête est décrite comme étant semblable à un léopard, avec des traits d'ours, gueule comme un lion, et le dragon, c'est-à-dire Satan, d'après Apocalypse 12:9, Satan donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Cette bête est motivée et guidée par Satan. Apocalypse 13, verset 3. Je vis l'une des têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Cette bête écarlate ne symbolise pas une église, mais plutôt le gouvernement civil sur lequel monte cette fausse église. Et quand on y réfléchit, ils ont déjà identifié la femme comme l'Église romaine, alors elle monte sur quel gouvernement ou l'Empire romain, bien entendu. Il ne peut s'agir que de l'Empire romain. Et puis, un grand soutien de cette compréhension nous vient du verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ?» Et qui peut combattre contre elle? Le verset 3 est dit, comme l'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais la blessure mortelle était guérie. Ça ne s'est pas passé beaucoup de fois dans l'histoire, mais quand on considère l'histoire de l'Empire romain, on voit que l'Empire romain était vaincu, détruit pendant un moment, en l'an 476 de notre ère. Et les dix cornes, donc, qui ont suivi, sont dix restaurations de cet empire. Les trois premiers restaurations étaient les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths, entre les années 400 et 500 de notre ère. Et puis, il y avait une restauration qui était la restauration impériale. Quand Justinien, l'empereur de Byzance, l'empire romain d'Orient, a restauré les provinces occidentales et les a rattachées à son domaine. Et ensuite, nous avons sept autres résurrections. Par d'autres, ces autres restaurations à suivre, les papes catholiques ont conféré le titre de Saint-Empire romain à Charlemagne. Et ça, c'était une fusion, une coopération étroite entre l'Église et le gouvernement civil. Charlemagne en 800 de notre ère, Othon le Grand en 962, Charles Quint en 1520, Napoléon Ier en 1805, et l'Italie unifiée par Garibaldi, qui a aussi finalement a fini par s'unir sous l'autorité de l'Église catholique. Comment est-ce que l'Empire romain a reçu le titre de saint? Pourquoi le Saint-Empire romain? Eh bien, dans Apocalypse chapitre 13, nous avons une réponse à cette question, Apocalypse 13, verset 11. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc ressemblait à un agneau qui représente Christ, mais parle comme un dragon avec le langage ou les paroles de Satan. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Nous avons donc ici une autre bête plus petite, ressemble à Christ mais parle comme Satan, un système religieux. Cette bête est la femme, l'Église, Babylone la Grande, qui se fait passer pour un agneau comme Christ, mais qui en réalité parle comme le dragon Satan. Et cette bête, par l'intermédiaire de sa tête, son chef, le pape, a couronné comme empereur des saints empereurs romains. C'était pas l'autorité du pape que cela s'est fait. C'est ça qui a démarqué un saint empereur romain de notre empereur. C'est l'intervention de la papauté, des papes, pour venir les couronner le plus souvent. Nous trouvons également deux bêtes prophétisées par Daniel, très longtemps avant, des centaines et des centaines d'années avant. Le livre de l'Apocalypse n'est pas vraiment le début de la prophétie concernant ce système ou ces systèmes qui s'interloquent que nous trouvons en Apocalypse. Déjà dans Daniel chapitre 7, nous trouvons un premier début à cette histoire. Alors, remontons à Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, nous commencerons au verset 1. Daniel chapitre 7, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux furent irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Voici un second animal, semblable, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans sa gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre, était semblable à un léopard. Il avait sur le dos quatre ailes, comme un oiseau, cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donné. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Les premiers 6 versets de ce chapitre évoquent le songe de Daniel révélant les trois premiers grands empires du passé. Babylone, symbolisée par le lion, la Perse, symbolisée par un ours, et la Grèce, symbolisée par un léopard, capable de se déplacer très rapidement. Et puis au verset 7, nous arrivons à un quatrième royaume, et ce quatrième royaume était différent de tout ce qui était arrivé avant. Des grandes dents de fer, ça c'est l'Empire romain. Et nous pouvons, vous pouvez le faire à loisir, comparer avec la vision que Nebuchadnezzar raconte dans Daniel chapitre 2, très similaire. Il y aura, là c'est marqué, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qu'on met, avec lequel on met tout en pièces. Ces symbolismes se retrouvent à plusieurs reprises et nous gagnons quelques détails en plus à chaque fois que ces images sont présentées. Daniel 7, toujours maintenant, verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici elle avait les yeux comme les yeux d'un homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Qui parlait avec arrogance, qui parlait comme le dragon, on va dire, comme on a retrouvé dans d'autres endroits. Cette petite corne accompagne la bête et ses 10 rois, qui vont, selon le verset 24, qui s'élèveront de ce royaume. Il est précisé au verset 21 également, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. » Ceci nous ramène évidemment à ce que nous avons lu en Apocalypse, chapitre 17, verset 6. C'est la femme qui est appelée Babylone la Grande, elle fera ça aux vrais chrétiens. Elle va les dominer et les détruire. Ainsi, la petite corne de Daniel chapitre 7, la deuxième bête d'Apocalypse 13 et la femme d'Apocalypse 17 symbolisent la même Babylone du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Église catholique romaine. Jusqu'à présent, nous avons examiné brièvement ce que les prophéties sur Babylone disent, comment ça s'est accompli au cours des derniers deux millénaires et sur ce que Babylone doit encore faire dans l'avenir. Qu'est-ce que la Bible déclare à propos du futur de cette église apostate appelée Babylone la Grande? Bien, Jésus a parlé de la période juste avant son retour et ce qui devait se produire concernant l'Église de Dieu. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 21. Matthieu 24. Verset 21. Il dit, en décrivant le temps juste avant son retour, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. La détresse sera si grande. Il y aura de faux Christ, de faux prophètes, qui vont confondre les gens et mettre dans la confusion religieuse pour les détourner de Jésus-Christ au moment de son retour. Il y aura une grande séduction religieuse au temps de la fin, au point de séduire, s'il était possible, même les avertis, même les élus. Ça sera très séduisant. Et l'apôtre Paul, lui, a expliqué ou donné d'autres détails concernant comment cette séduction se produira. Il explique ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Les papes ont revendiqué le titre de vicaire de Christ. Vicaire, ça veut dire à la place de. Et c'est pour ça que on prétend encore que quand le pape est sur son siège officiel, il ne peut pas faire d'erreur. Il ne peut pas dire un mot déplacé. Les papes ont choisi eux-mêmes le titre à la place de Jésus-Christ sur terre, le vicaire de Christ. Le commentaire biblique d'Adam Clark, que j'avais cité plus haut, décrit cet homme impie, mentionné au verset 4, comme ayant le poste le plus élevé dans l'Église dite chrétienne, comme agissant comme s'il était Dieu lui-même, s'arrangeant les titres et les traits divins et l'autorité qui devrait être réservée au Très-Haut. Fin de citation. Dieu révèle qu'avant le retour de Jésus-Christ, beaucoup de gens sur terre seront séduits par cet individu et par le faux système religieux qu'il va représenter. Et nous trouvons plusieurs références à cela dans Apocalypse. Prenons Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ils avaient aveuglé, ils avaient confondu tous ceux qui ont accepté la marque de la bête. Et ça, c'est le sujet pour une autre explication. Babylone la Grande, son système faux, d'aveuglement spirituel, eh bien, ils vont arriver avec leur chef à la tête de ce système à une fin abrupte et dans les temps de feu. Ça sera fini. Ils connaîtront une fin soudaine au moment du retour de Jésus-Christ, mais non avant d'avoir vraiment étourdi religieusement le monde. Dans Apocalypse chapitre 18, nous arrivons à la fin de ce faux système qui persécute les membres de la vraie Église, qui essaient de s'opposer à Dieu comme le système babylonien a fait depuis le début. Babylone a vu le jour en opposition à l'Éternel, et ce nom de Babylone représente l'opposition à la rébellion humaine à la fin des choses. Et nous lisons à propos de la fin de Babylone dans Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre, verset 1, du ciel, un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la Grande », tout comme nous l'avons lu dans Ésaïe. « Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. » Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Avertissement de tout temps pour le peuple de Dieu. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle l'a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et il sera consumé par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet en bois très précieux, etc., etc. Et même quand nous arrivons à la fin du verset 13, ils font le commerce du corps et des âmes ou les vies des hommes. L'esclavage reviendra apparemment sous ce système. Descendons au verset 17. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, et en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Verset 24, « On a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » La Bible révèle que Babylone sera responsable d'avoir martyrisé les vrais serviteurs de Dieu. C'est ce que nous avons lu. Dieu a décrété que Babylone, la grande, sera sévèrement jugée du fait de sa rébellion contre l'Éternel et pour avoir été cruelle au peuple de Dieu. Comme l'explique le commentateur Albert Barnes, il est question de destruction totale. Et le sens donné ici est que la Babylone spirituelle, le Rome des papes, sera réduite à un état de destruction totale identique à celle de l'antique Babylone. Voilà l'avenir de Babylone. Nous avons vu les débuts, nous avons vu ce qui se passe actuellement dans ce système qui est en réformation actuelle. Et nous avons vu la fin de son histoire et de tous ceux qui se rebellent à Dieu et refusent de se soumettre à son autorité. La description du sort de Babylone est accompagnée d'un avertissement à tous les croyants depuis que le peuple de Dieu existe pour qu'ils agissent avant qu'il soit trop tard. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Il est absolument crucial que nous nous tenons à l'écart de ce système, que nous ne nous laissons pas attirer par l'offre de richesse et de luxe si on coopère avec ce système. Et la tentation sera un jour grande. Il est crucial pour les chrétiens de ne pas se laisser aller avec un faux christianisme, avec les courants du monde, qui vont s'allier à ce système babylonien. C'est en cours actuellement. Nous voyons des indices à droite et à gauche. Cela a toujours été un défi pour les chrétiens de résister à la tentation de se laisser attirer, engloutir en quelque sorte par les tentations, les mauvaises voies du monde qui nous entourent. Et ce sera le cas jusqu'au retour de Jésus-Christ et le monde à venir qui sera établi par Dieu. Un dernier mot alors pour nous, frères et sœurs, nous devons bien comprendre cette histoire, comprendre pourquoi Dieu se sert de l'image de Babylone pour dépeindre la rébellion du temps de la fin, le refus de se soumettre à Christ à son retour. Mais en plus de la compréhension de ce qui va se passer, nous devons prendre très au sérieux l'avertissement que Dieu nous adresse de ne pas avoir part à ses péchés. Nous savons quels sont ses péchés. nous ne devons pas avoir part à ces péchés, pour ne pas non plus partager ces fléaux. L'avertissement de Babylone pour nous, c'est de rester à l'écart, de ne pas aller avec Babylone la Grande, mais de rester soumis et obéissant à notre Père céleste.